Vous êtes sur RTL.
Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
Oui, notre professeur de français qui est très inspiré, comme d'habitude, notre correctrice préférée, savoureux bonbon. Bonjour Muriel.
Et bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
D'ailleurs, en ce moment, vous êtes très, très branché expression.
Oui, ce sont nos auditeurs aussi qui sont branchés expression, vous allez voir. J'ai reçu un message cette semaine sur langue@rtl.fr de Baptiste, âgé de 15 ans, qui vit dans le 18e arrondissement de Paris et sûrement pas bien loin de chez vous, Stéphane, parce que son père, dénonce-t-il, est à la fois un amateur du bonbon sur la langue et un fidèle client, comme vous, de la charcuterie Le Roi du Saucisson, rue du Poteau. Comme quoi on peut aimer le bonbon et le saucisson. Et
ça, c'est mon cas. Ouais.
J'en suis fort aise. Le jeune Baptiste m'écrit surtout parce qu'il se demande, et il paraît que ça le taraude, à quelle figure de style correspond l'expression « passer du coq à l'âne ». Alors, il y a des dizaines de figures de style, mais ici, on a affaire à une métaphore, hein, tout simplement.
Tiens, vous nous rappelez la définition d'une métaphore ?
Alors oui, selon Larousse, c'est un procédé par lequel on substitue à la signification d'un mot ou d'un groupe de mots une autre signification qui s'y rapporte en vertu d'une analogie ou d'une comparaison implicite. Et il donne l'exemple de l'hiver de la vie, pour évoquer la vieillesse par exemple. Alors, au passage, ce côté implicite, cher Baptiste, c'est ce qui fait la différence entre métaphore et comparaison. Si vous dites la vieillesse c'est comme l'hiver, alors c'est plus une métaphore, c'est une comparaison.
Mais Muriel, d'où vient cette image bizarre du coq à l'âne ?
Sauter du coq à l'âne, c'est passer sans logique apparente, de manière désordonnée, d'un sujet à l'autre. Mmh. Le coq à l'âne, on s'y peut en commun que ça fait image, bien sûr. Mais Claude Dunton, l'un des papes français des expressions, fait l'hypothèse dans son livre intitulé « La puce à l'oreille » qu'il pourrait s'agir d'une erreur et d'un saut entre espèces moins grand qu'il n'y paraît.
C'est-à-dire, Muriel ?
Eh bien, figurez-vous que jusqu'à la fin du XIIIe siècle au moins, l'âne, sans accent circonflexe, hein, est le mot qui désigne la canne, la femelle du canard. Or, le terme s'est peu à peu confondu avec âne, le baudet, qui s'écrivait à l'origine à S-N-E, mais dont on a cessé de prononcer le S, qui s'est transformé plus tard en accent circonflexe sur le A. Mais l'âne palmipède et l'âne baudet étaient trop proches, ça prêtait à confusion. Et c'est le baudet qui a gagné, il a gardé le nom d'âne.
Et alors comment la canne est-elle devenue la canne ?
Eh bien au XIIIe siècle aussi, canner signifiait caqueter. Et de là, on a formé le nom du canard, le cactar en quelque sorte. Et sa femelle est devenue la canne. Mot qui avait par ailleurs l'avantage de ressembler à son ancien nom, âne. Et petit point de vocabulaire pour finir. On écrit sans trait d'union, passer du coq à l'âne, mais avec deux traits d'union, faire un coq à l'âne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en mettant un article devant un coq à l'âne, on a créé un nom commun, coq à l'âne. Ce qu'on matérialise par ces petits traits qui unissent, comme leur nom l'indique, les différentes parties du nom. Ah, et ne confondez plus, je vois souvent cette erreur. La canne, femelle du canard, qui ne prend qu'un N. Et toutes les autres cannes, celles qui servent à marcher, à pêcher, à faire du sucre, que sais-je, et qui ont deux N. Mon truc pour ne pas l'oublier, Madame Canard a deux L, mais un seul N.
Pas mal ce petit truc, c'est signé Muriel Gilbert. Le bonbon, le cours de français, c'est à réécouter bien sûr tranquillement, vous allez directement sur l'appli RTL.